3.
État d'alerte jaune déclenché par toutes les stations. Capitaine, je capte une espèce de signal radio subspatial.
Passez-le sur écoute.
Analyse, monsieur Data.
Les détecteurs relèvent de nombreuses fluctuations gravimétriques assez inhabituelles.
Inhabituelles, c'est-à-dire précisées.
Quelque chose de jamais.
Et bonjour tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Parlons Trek cette semaine. Déjà le 2 novembre, le temps avance très vite. Je suis en compagnie de Marc et de Dom. Bonjour tout le monde.
Bonjour tout le monde.
Et peut-être Yann va se pointer là, dans les prochaines minutes.
Non mais tu penses-tu que présentement on est le trio original d'il y a un an?
Oui.
C'est vrai, ça fait un an là.
Dans 2 jours, ça va faire un an. Là.
Dans 2 jours, ça va faire un an.
Ouais.
Bon, je vais boire une bière, puis je vais essayer de me rappeler ce qu'on a
pour
fait.
Ceux qui... J'avoue que les épisodes qui ont été faits avant les fêtes n'ont pas survécu.
J'ai comme
nos deux pilotes. Qui n'ont pas survécu. Ben, on expérimentait, on était jeunes.
Ouais, c'est ça. Puis des fois, ben, faut éliminer
on
tout.
Pas.
Des fois, faut éliminer l'épreuve.
Ouais.
Exactement. Des fois, faut oublier qu'on a effacé l'épreuve aussi.
C'est ça. Mais donc, en effet, c'est vrai que ça fait un an. Je suis quand même content. C'est le fun. Ça. On a fait des belles choses jusqu'à l'heure. On continue à faire des belles choses. Évidemment, nos voyages, les conventions, on a Vegas qui s'en vient, puis probablement d'autres tours à Ticonderoga encore, parce que ça
coûte une chose. Moi, j'ai l'intention d'y aller probablement cet été, là, ça serait fun d'y retourner.
Ouais.
Pour le plaisir.
C'est ça.
C'est sûr que pour aller voir Monsieur Shatner,
on pourrait
y aller.
Moi, je sais pas. J'ai vu pour de vrai, là, quand j'ai été assistant au Comic-Con, puis...
Peut-être pas payer 8000$ pour le voir, mais...
Non, c'était combien? Je pense que c'était 900 américains, le tour VIP, là...
C'est ce que j'ai dit, 8000$.
Le taux de conversion de marde...
Oui, ben, on est quand même pas si
bien.
Ça augmente tranquillement pas vite, le taux.
Ouais.
Tranquillement pas vite.
Bon, on espère que ça continue de même jusqu'à l'été prochain, parce que là... Parce que j'espère pour eux autres, parce que là, ce qu'ils m'avaient dit, c'est que... s'il y avait Shatner, c'était peut-être pas ça qu'il allait avoir un Trek on the Roga. Mais là, j'ai reparlé après à mon contact. Puis la personne a dit, bon, ben peut-être que finalement, il va en avoir un aussi.
Oh, ça serait bien, parce que j'aimerais bien ça y aller, moi, cette année. Ben, l'année prochaine.
Ça veut dire qu'on ferait Vegas, puis Ticonderoga.
Ticonderoga, ça se fait bien, honnêtement. Là.
Ouais,
mais c'est pas la convention qui va nous coûter le plus cher non plus. Là.
Non, c'est ça. Bon, et Yann est prêt pour nous rejoindre de ce pas. Je vais l'ajouter. À cet appel. Et la magie de Skype devrait s'opérer dans les instants suivants, parce qu'on n'est pas encore au 24e siècle. Avec
on n'a pas encore d'hologramme.
Non, c'est ça. Mais tu sais, c'est parce qu'il y a des hologrammes. Salut Yann!
Salut!
Hey, non, ça, on parlait justement de voyage de Ticonderoga de Vegas, là... Comme on avait dit, c'était pas. Je pense que c'est pas Ticonderoga qui va casser notre petit cochon le plus. Surtout pas après Vegas, là. Mais non, c'est ça, parce qu'on parlait de justement, ben, tu fais partie de nos. Des belles conséquences de notre podcast. T'avoir rencontré, Yann, c'est C'est vraiment fantastique parce que tu... Écoute, je pense que t'es un gars super bien plugué au niveau du cosplay, puis du cosplay Star Trek plus spécifiquement, je pense que c'est vraiment génial, là. Puis tes anecdotes avec New Voyages et He Who Shall Not Be Named sont toujours délicieuses. Je me rappellerai encore de cette soirée au McDonald's avec Dave Gallanter où ce qu'on a pu vanter sur le sujet. C'était bien. Il y a des choses qu'on peut...
C'est réciproque. Puis en fait, je suis super content d'avoir fait connaissance de vous, de toute la gang, parce que tu sais, initialement, j'ai commencé à vous écouter comme ça, puis là, ça a donné avec Ticonderoga, c'est ça qu'on s'est rencontrés, là.
Ouais.
C'était quand même... C'est bien, c'est toujours le fun de rencontrer des gens, mais encore plus quand c'est des Québécois qui trippent Star Trek.
Ben oui.
Donc, y en a comme beaucoup moins. fait que... Non, c'est vraiment le fun pour ça, là. Avoir notre propre petite communauté Star Trek ici au Québec.
Ben oui. Puis ben justement, puis en plus, on a eu Comic-Con de Québec.
Oui.
On en a parlé une couple de semaines. Donc, en espérant pouvoir refaire ça l'année prochaine, peut-être, on ne sait pas, peut-être même au Comic-Con de Montréal, si on vient qu'à être assez une référence, là. Ça pourrait être sympathique. Mais bon, sur ce, on se baigne, on se célèbre dans nos accomplissements, mais en même temps, il y a des nouvelles qui se sont produites cette semaine. Je vais y aller avec la... Il y a des choses qui se sont passées, Marc.
Mon Dieu.
Plein de choses.
Semaine.
Ben, plein de choses.
On y va avec la chose triste ou en
ouais, ben non, ou... pas c'est pas triste. C'est,
ben,
c'est...
pas triste, mais c'est malheureuse.
C'est... Ben, comment ça, malheureuse?
Plate.
Non, c'est pas à cause que moi j'aime pas ça que faut que tu sois pour que personne aime ça, là. Oui,
ben,
Orville a été renouvelé pour une deuxième saison.
Non, j'aime ça, moi, Orville.
C'est bien, honnêtement, parce que, tu sais, moi je pense à quelqu'un comme. Voyons. Évidemment, c'est comme c'est là que j'ai un blanc de mémoire. Gabriel Charles Coroner, quelqu'un, c'est un une de ces personnes qu'on a pu voir dans le film Trekkies et qui est devenu depuis ce temps-là un artiste d'effets spéciaux qui travaille sur Enterprise, Battlestar Galactica et beaucoup d'autres projets. Il travaille sur The Orville et ça me fait réaliser que c'est bien fun que toi t'aimes pas ça, mais il y a du monde qui gagne leur vie avec ça puis qui trippe là-dessus. Ben c'est tant mieux, c'est le fun. Moi, tout ce que j'aime pas à propos de The Orville, c'est les fans.
Oui.
C'est juste ça. C'est vraiment juste ça. C'est le fait que les fans ont weaponisé The Orville pour s'en servir comme justificatif de comment que Discovery est pas bon et tout ça.
Oui, c'est pas tous les fans de The Orville qui sont comme ainsi. C'est ça, c'est plus ceux qui détestent Discovery qui se sont dit. Quand t'as détesté Discovery, on va aimer The Orville.
C'est ça. Puis moi, personnellement, c'est juste que je vois The Orville comme étant une... Mais je vois ça comme une doudoune de sécurité, une petite doudou de sécurité qu'un enfant tient contre lui, puis qui ne veut pas se séparer. Tu sais, c'est une doudoune de nostalgie. C'est vraiment ça dans ma tête.
Ben c'est vrai. Oui, parce qu'avec ce qui est reproché à Discovery, c'est que c'est pas assez Star Trek conventionnel, alors que justement, Discovery va dans des places où est-ce que les autres séries Star Trek sont pas encore allées, sont jamais allées.
C'est ça. Puis...
Là, les gens aiment moins ça pour ça, mais c'est comme si on peut pas oublier que la Fédération a quand même connu des guerres, des côtés sombres.
C'est ça. C'est...
c'est bien que ce soit dit à l'écran, puis que certaines personnes essaient justement d'élaborer ces côtés sombres de l'histoire.
C'est même pas une question de côté sombre, c'est une question d'avoir des personnages crédibles. Personnellement, ouais, je trouve.
Parce que moi, je trouve que dans Discovery, les personnages sont pas parfaits. Contrairement dans les autres séries, où est-ce qu'ils sont peut-être plus des stéréotypes de personnages. Tandis que là, dans Discovery, ben, leur cas, ben, c'est vraiment pas l'archétype l'officier Starfleet. Il y a un passé trouble qu'on commence à percer un peu. T'as Burnham, que, elle aussi, elle a quand même un passé assez trouble. Puis,
ouais.
Elle est un petit peu fuckée. Même Saru, que lui aussi, son passé, en fait, en fond, ils ont tous des passés qu'on apprend à connaître d'épisode en épisode.
Donc, c'est vraiment juste parce que c'est pas quelque chose qu'on a connu. Mais en même temps, bon.
Puis justement, JP, sur ce sujet-là, les critiques par rapport à ce que Discovery est un peu dark, on nous a répondu, dans le fond, les scripteurs, ils ont mentionné que c'est vraiment la nature sérialisée de cette série-là qui fait que il peut y avoir une perception que c'est dark. Mais c'est parce qu'on s'attarde plus longtemps à certaines situations, à certains personnages, mais le ton va évoluer avec la série ben oui. à mesure que ça avance. On ne va pas toujours rester pris dans cette guerre. On va pas toujours. Ça va évoluer. Disons que faut être patient, là, mais c'est juste parce que c'est une histoire qui a été tirée sur. Qui est présentée en 15 épisodes. C'est un peu normal là, qu'on passe un peu plus de temps sur certaines situations.
Et voilà. C'est l'exemple qu'il donne, c'est après The City on the Edge of Forever, quand Kirk voit Edith Keeler mourir.
Exact.
Puis l'épisode prochain, ben, tout est correct, puis c'est comme si de rien n'était. Puis ben, y a quelque chose d'encore pire. Ben, encore pire. C'est dans l'épisode voyons, c'est avec les Romuliens là, qu'on voit pour la première fois. Là,
Balance of Terror.
Il y a le mari de... Tu sais, les deux qui étaient sur le point de se marier. Bon, on les voit. Le mari, il meurt. L'épisode d'après, c'est Shirley. Puis on voit la même fille en train de cruiser. Puis toute heureuse. Puis tout va bien. C'est sûr que, bon... dans l'ordre de production, c'était pas filmé. C'était filmé comme, je pense, beaucoup plus tard. Mais en même temps, tu sais, ça a été présenté l'épisode d'après, fait que... Tu sais, c'est...
Ça fait particulier, mais c'était le charme des années 60 dans la façon de faire la télévision.
C'est ça. Donc, en tout cas, donc, félicitations à tout le monde pour à tous ceux qui travaillent sur Zeroville. Une bonne job, c'est juste malheureux que moi, personnellement, j'ai décroché après le cinquième épisode, j'ai pas besoin de le répéter. Je vais peut-être essayer de regarder ça là, après la première saison. Là. Mais pour l'instant, je regarde Star Wars Rebels aussi. Puis j'essaie de réembarquer dans Stranger Things. Fait que j'ai d'autres choses à regarder. Là, donc,
Il y a un masse de contenu, en tout cas. C'est voilà. Pas ça qui manque là, de ces temps-ci. Moi aussi, pour The Orville, je pense que j'ai écouté quoi les trois premiers épisodes. Je les ai enregistrés, mais j'ai pas vu encore... Il est plus récent. Là. Éventuellement, je vais me rendre à ça.
Bon. Je suis curieux de savoir ce que tu en penses. Donc, sur une autre bonne note pour notre ami Les Moonves, donc le président de CBS, a annoncé aujourd'hui que grâce au succès de Star Trek Discovery, ils allaient lancer un autre... qu'ils allaient... lancer un autre revival sur cette plateforme-là. Et ce coup-ci, c'est The Twilight Zone. Donc, ça va être la deuxième tentative de ramener ça à la télévision. Ben, télévision. En format épisodique, on va dire. Je pense qu'il y avait une tentative en 2002. Mais ça, je pense que ça a juste duré une saison. Donc, Les Moonves qui dit que... donc l'important c'est de faire c'est vraiment de mettre du contenu sur CBS All Access et parce que si on aurait voulu faire de l'argent rapidement on l'aurait juste vendu à Netflix puis merci bonsoir mais eux autres ils visent vraiment une profitabilité à long terme donc d'où l'investissement dans le contenu et donc de pas lâcher une série après juste une saison parce que
Il faut juste que leur plateforme aussi a pu suivre parce que je pense que pour l'épisode l'avant là,
ouais, il y avait l'été,
de difficulté de connexion.
Oui, oui, oui. Mais celui de cette semaine, il n'a pas eu l'air en avoir, donc on va... Ben, faut dire, c'est ça, tu sais, c'est quand une grosse boîte comme ça, multinationale, se lance dans quelque chose de même, faut toujours s'attendre un peu, je dirais pas malheureusement, mais tu sais, est-ce que ça va être clunky au départ parce que souvent, il y a tellement de red... Pour avoir travaillé chez CCI puis des grosses boîtes informatiques, là, plus que la compagnie est grosse, moins qu'ils ont de marge de manœuvre, puis de plus qu'ils ont, qu'ils ont de paperasse à faire, puis à remplir, puis ils sont pas en mesure toujours de se revirer sur une scène comme une petite compagnie le ferait, ou peut-être une moyenne compagnie pourrait le faire, là. Moi, personnellement, je leur laisse un peu de lousse, mais... Donc, ils ont l'air d'avoir, justement pour ça, on va espérer que ça continue de même. Donc, Toilaison. Et Toilaison qui va être produit par Jordan Peele. Si vous connaissez Key and Peele sur ces deux comédiens. Il avait fait justement récemment il a fait le film d'horreur Get Out qui a été très populaire. Film qu'il va falloir que je regarde un moment donné. Donc, ça va être Jordan Peele qui va être derrière ce reboot de Twilight Zone, donc sur CBS All Access. Donc, on a une plateforme qui commence à être de plus en plus en santé. C'est le fun à voir. C'est bon pour ce qui est bon pour CBS, c'est bon pour Star Trek. C'est bon pour Star Trek, c'est bon pour nous autres. On va juste dire ça de même.
JP, as-tu vu quelque chose par rapport à CBS All Access qui viendrait au Canada peut-être l'année prochaine?
Peut-être, oui. Je sais qu'il allait s'introduire en Australie.
OK.
Mais je pense qu'avec le deal avec Bell, je pense qu'il n'est pas sur le point de... Il n'est pas sur le point de s'éteindre.
Ben oui.
Mais non, mais honnêtement, parce que ça, honnêtement, j'aime Twilight Zone, mais les seuls moments où je peux vraiment regarder ça, c'est sur Space, puis je suis jamais là. Puis il l'a pas sur Crave, puis il l'a pas sur Netflix non plus. Fait que moi, je dirais pas non pour regarder, parce que ça reste un grand classique. Si vous connaissez pas ça, allez voir ça, c'est vraiment de la science-fiction à... distillé à son état le plus pur. Ben, science-fiction, mystère. Rod Serling est un personnage, je trouve c'est un génie pour son époque là, d'être capable d'envoyer des petits messages, des leçons au travers de ces histoires-là. Donc, d'ailleurs, plusieurs gens. On plusieurs, je pense que faudrait que je retrouve la liste. Là. Il y a une liste impressionnante d'auteurs de science-fiction qui ont travaillé sur Twilight Zone. Là. Fait que, personnellement, je dirais pas non à m'abonner. Je m'abonnerais une ou deux semaines, un ou deux mois, question de regarder tout ça. Mm-hmm. Puis, si jamais ben, qu'il vient y avoir d'autres contenus, ben, tant mieux. Mais c'est ça. Personnellement, c'est ça. Donc. Il y a toutes les plateformes en ligne s'en viennent. Au Canada, on est quand même pas sûr parce qu'on n'a pas Hulu, on n'a pas. Il y en a plusieurs qu'on n'a pas. Tout ce qu'on a, je pense, les deux grosses, c'est vraiment Netflix puis Crave. Est-ce qu'il y en a, y en a-tu d'autres au Canada que...
Il y avait eu Show Me, mais ça n'a pas vrai. Duré longtemps. Ouais, c'était Rogers qui avait ça.
Oui, ça a pas duré. Je pense que Rogers avait moins de fond de roulement que Bell pour ça.
Donc, c'est à peu près ça, je pense.
Non, c'est ça. Fait que un troisième joueur hein, là-dedans, moi, ça va juste être bon pour la compétition. Faut pas oublier, c'est ça, le monde qui dit « Oui, je veux tout sur Netflix », mais en même temps, le monopole, c'est pas bon pour...
C'est pas bon
pour le consommateur, client. C'est ça.
Fait que, exactement.
Parce que c'est bien le fun d'avoir tout sur Netflix, mais à un moment donné, c'est parce qu'il ne faut pas oublier que Netflix a probablement une quantité limite d'argent qu'il peut investir. Il faut que tu calcules le nombre d'abonnés, le nombre d'argent que ça fait rentrer.
Pour rien que aussi Netflix a commencé à augmenter leurs tarifs aussi. Là.
C'est ça, puis à canceller une couple de séries là, aussi. Là,
il ne faut pas oublier non plus que Netflix va perdre tout ce qui est Marvel aussi.
Ah oui, c'est vrai.
Parce que Disney va partir la sienne l'année prochaine, si je me trompe pas. Fait que, déjà là, ça va...
Ouais, mais c'est ça. Là, ça s'en vient de plus en plus. C'est ça. Là, je pense que l'affaire de CBS All Access, ça a vraiment réveillé un géant dans le sens que là, les compagnies se disent, ben, tant qu'à lisser les affaires, pourquoi pas les vendre directement? Et on va couper les cut out the middleman and sell directly to you. Ça reste à voir. Là. Je pense que ça va être à voir. Je pense que le marché, je vais saler comme un républicain ou comme un gars de la droite, là, mais le marché va se réguler de par lui-même au cours des années. Mm-hmm. Ça sera à voir. Mais ça, je pense que c'est un marché qui va se réguler de par lui-même. Là,
Mais c'est vrai qu'est-ce que tu dis, parce que même, c'est quoi, MGM, ils ont annoncé leur propre plateforme, ils vont avoir Stargate là-dessus.
C'est ça, ouais. Mais ça, c'est encore pire.
Tout le monde veut...
Le monde qui dit « Ouais, mais je ne vais pas me donner une plateforme juste pour regarder Star Trek. » Non, c'est pas juste pour regarder Star Trek. C'est une plateforme qui a du contenu, mais qui a en même temps Star Trek. Tandis que l'affaire de Stargate Universe, c'est vraiment juste pour regarder une... Ben, je dirais pas une émission, mais une franchise d'émissions. Donc, ça s'en vient de plus en plus pointu, leur affaire. T'sais, CBS All Access, c'est encore correct, tu sais. C'est un studio, il y a plusieurs vérités, mais là, ce que MGM fait, je trouve que ça s'en vient un petit peu plus, je dirais pas dangereux, mais, tu sais...
C'est très niche.
C'est très niche, surtout pour... Là, Pierre n'est pas là pour se défendre, mais surtout pour Stargate, qui est une franchise qui est en dormance depuis, 2009-2010. Eux autres, tu sais... Ils n'ont pas osé faire comme un Discovery puis refaire une vraie série au complet, mais ils font comme des mini-épisodes pour... Je sais pas s'ils tâtent le terrain ou quelque chose, là, mais ça c'est quelque chose que je m'offusque un peu plus, mais tu sais, je sais pas, j'ai un peu plus de misère avec ce que MGM font avec Stargate. Là. pour ceux qui sont comme moi et non pas comme Yann et qui peuvent pas se payer un PSVR.
Écoute, j'ai même pas joué assez. Je devrais passer du temps dessus là, mais c'est un peu honteux hein, parce que j'ai acheté ça puis je m'en sers pas.
T'es dans toutes les Comic-Con.
Ce que j'allais dire, c'est qu'il y a des centres IMAX VR qui commencent à ouvrir un peu partout. Quand je dis un peu partout, c'est comme Hong Kong, Dubaï et Los Angeles. Là. Fait que éventuellement, un jour peut-être au Canada.
Ouais, Saguenay.
Non, Saguenay, je pense que tu mets une croix là-dessus, mon cher. T'as notre IMAX VR. Deux secondes. Donc, c'est ça. Il va y avoir une mission. Il va y avoir un Donc, on va pouvoir choisir un truc de Star Trek Bridge Crew pour dans ces centres-là. Ça va s'appeler Rescue at Perseth. Donc, pas vraiment de détails, là. Donc, les centres IMAX utilisent un système modulaire avec des pods dans lequel les joueurs peuvent jouer à plusieurs jeux en réalité virtuelle. Donc, c'est ça. Donc, c'est à Kips Bay, à Manhattan, à Los Angeles et à Shanghai. Donc, si jamais... New York, Manhattan, c'est pas si pire, mais... ce que j'ai cru voir, c'est qu'il y avait peut-être un ouvrira à Toronto, éventuellement. Moi, j'aimerais ça à Montréal, parce que c'est sûr que le IMAX reste une création canadienne. Faut pas oublier ça. Donc, ce serait le fun d'avoir ça. Mais, donc, je sens pour ceux qui aimeraient pouvoir l'essayer... Surtout, je pense que le gros fun de ça, et ce qui est pas facile à faire, c'est d'être quatre dans la même pièce à jouer à ça. Je pense que c'est là le gros fun.
C'est ça, parce qu'avec une console, tu peux pas le faire. Tu sais, ça prend quatre consoles.
C'est ça.
Tu peux non, pas.
Mais...
mais
JP, tu me donnes justement un lien. Il y a André Mérubé, un gars de Québec, qui cherche justement deux joueurs pour qu'on puisse. L'été, ça gagne le 17 novembre à l'Université Laval pour jouer Artemis Bridge Simulation.
Oh, Artemis.
Alors, s'il y en a qui sont intéressés.
Ben oui, ça, donc, en vente.
S'il y en a qui sont intéressés, contactez-moi. Je vais vous mettre en contact avec André.
Ben oui, pour ceux qui ne connaissent pas, donc Artemis Bridge Simulator est un jeu qui se joue en réseau local et qui... en fait, dans lequel chaque ordinateur va devenir une station sur la passerelle d'un vaisseau. Donc, c'est comme Bridge Crew, mais sans l'élément réalité virtuelle. Donc, au lieu de regarder un écran au travers de tes lunettes, ben tu regardes ton ordinateur. J'ai joué très souvent. C'est vraiment plaisant. Donc, le jeu est en vente sur Steam pour $7.79 où il y a un 6-pack qui se vend à $38.69. Donc, pour c'est un bon petit deal. Donc, si vous voulez jouer entre amis, puis c'est fait par un seul gars. Je t'ai mentionné, c'est développé, ça fait quoi, quasiment 10 ans qu'il travaille là-dessus, même plus. Donc, j'avais découvert ça, on avait joué à ça la première fois au GeekFest en 2010. Puis depuis ce temps-là, ça a toujours été une... Ça a toujours eu sa place là, dans diverses conventions. Donc, je vous recommande fortement, mais c'est ça. C'est un jeu qui se joue uniquement en réseau local, donc oubliez ça, le multijoueur à distance. Ça se fait techniquement, il faut c'était un réseau local, virtuel, tout ça. Mais ça perd de sa touch. Parce que vu qu'on n'a pas l'élément de réalité virtuelle, ben on peut vraiment se retourner pour de vrai vers le capitaine à la place de faire ça avec des lunettes de réalité virtuelle. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est pas mal tranquille cette semaine, outre cela, au niveau des nouvelles. Bon, c'est sûr qu'il y a la nouvelle de Kevin Spacey et de Anthony Rapp là, qui a passé. Je veux pas m'éterniser là-dessus. Je pense que je suis pas la meilleure personne pour parler de ça. Moi, ça me rend plus ou moins mal à l'aise. Pas ce genre de truc-là. Mais c'est arrivé.
Ça fait juste partie du moi aussi. Alors, tout le monde a entendu parler, c'est quoi moi aussi? Alors,
c'est ça. Et voilà, donc...
Nous, on n'embarque pas là-dedans.
C'est ça. Petit rire nerveux et passons au prochain sujet. Donc, la semaine dernière, on avait annoncé un petit concours pour le tirage de... disque de trame sonore du concert de l'orchestre avant de musique de film. Et sur les réponses qu'on a eues, on en a eu 5 de bonnes, pardon.
Ouais.
On a eu David Miro, Maxime Giroux, Stéphanie Laroche, Sylvain Taisan et Hélène. Donc là, il faut que je trouve un moyen de... de choisir, faut pas que je choisisse, il faut que je tire au hasard. Donc, je vais aller sur random.org et je vais tirer un chiffre de 1 à 5 de ce pas. Donc, un instant. Donc, en fait, ce qu'on va faire, on va faire une petite pause musicale. Pendant ce temps-là, je vais faire, passer au randomizer.
Puis JP peut-être rappeler la question puis la réponse
aussi.
Ben oui,
on va donner la question et la réponse tout de suite. Donc la question était qui est apparu dans le même personnage avec le même acteur dans Deep Space Nine, Voyager et Next Generation. Et je pense qu'il y avait juste deux bonnes réponses.
Trois que j'ai trouvé.
OK.
Mais il y avait deux personnages principaux qui étaient Quark, qui a joué dans les trois séries. Il y avait Q.
Oui.
Évidemment. Et le troisième personnage était un personnage très volubile, morne.
Oui, ben oui. Morne. Il n'est pas capable de. Toujours en train de parler, celui-là. Ça n'a pas d'allure.
Ouais. Alors, c'était les trois personnages que moi j'ai trouvé personnellement. Il y en avait peut-être d'autres, mais c'est les
Dom
trois
avait,
que j'ai trouvé.
Dom avait mentionné la voix de l'ordinateur.
Ouais, mais ça... c'est ça.
Donc...
mais il y avait un piège aussi avec Riker.
Oui, c'est vrai parce qu'on aurait pu dire Riker, mais non, c'était Thomas Riker parce qu'il a enlevé ses favoris.
C'était son clone.
J'adore comment le fait... Les favoris étaient totalement non nécessaires. C'est comme, ça servait à rien de les mettre ou de les enlever. C'était vraiment comme... Mais bon, c'est pas grave.
Alors, pause musicale.
On va aller à la pause musicale avec iMod de Five Year Mission. Et on revient après la pause avec le gagnant. Donc, iMod, Five Year Mission, donc très thématique pour l'épisode de cette semaine. Magic to make the sanest men go mad or mud. Donc, avant tout, je tiens à mentionner que Maxime Giroux C'est mérité. Donc, le CD de l'orchestre avant de musique de film, autographié par M. Leblanc lui-même. Donc, Maxime, si tu peux nous envoyer un message.
On va te contacter en privé.
Oui, c'est vrai. Oh, nous avons courriel, donc on va te contacter donc pour avoir tes coordonnées. Donc, les amis, un épisode de purement Star Trek cette semaine pour Discovery. Qu'est-ce que vous en pensez?
Très bon.
Ouais, Timeline.
Ouais.
C'est sûr que c'est un épisode de Star Trek.
Oh, oui,
Non, j'ai adoré. Ça m'a fait penser à un des épisodes de TNG où il y avait le
vaisseau
qui explosait tout le temps. Ouais. Alors, j'ai adoré cet épisode-là. Là, on peut pas dire que c'est pas du Star Trek. Là.
Mm-hmm.
Non, c'est du Star Trek à son état, je pense, le plus pur. Mais là, on dit, oh non, de la musique pop. Là, je m'attendais, tu sais, évidemment, il y a toujours du monde qui disait, ouais, mais là, il y a de la musique pop dans Star Trek. C'est quoi ça fait là? Ouais, mais c'est parce que là, ils peuvent se payer le licensing pour payer des vrais tunes. Ils n'ont pas juste de la musique classique parce que ça coûte rien. Donc.
Faire de party sur du classique.
Ben non, c'est ça.
C'est du beer pong sur du classique, c'est comme... Ça doit être assez spécial, mais ça donne pas la même ambiance.
Ah non, c'est ça. Donc, faut dire aussi, c'était pas un party pour les officiers supérieurs, parce que c'est vraiment la série Lower Decks que plusieurs gens voulaient depuis très longtemps. Donc, justement, là, on parle justement à l'épisode Lower Decks de The Next Generation, mais c'est ça. C'est vraiment. Il n'y avait pas de commander ou de haut ranké dans ce party-là.
C'est tous des juniors.
C'est ça. Donc, party de juniors, ça va pas manger du caviar en écoutant du Mozart. Non, ça va écouter du.
Aller au Ten Forward et écouter un Android jouer du classique non plus au violon.
Ou un récital de poésie.
Ouais, c'est ça, c'est pas le même genre.
On va écouter l'Ode à Spot, donc. Je pense que c'est un épisode où ils se sont permis plusieurs choses. Justement, on a pu voir des interactions. Tu sais, Burnham qui devient de plus en plus humain. C'est vraiment un épisode Burnham, Tyler et Stamets, je pense que c'est les trois personnalités, les trois personnages les plus forts de cet épisode-là. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus.
Oui.
Stamets. je l'adore. Au début, je ne l'aimais pas, mais là, il est débile.
Depuis qu'il a sniffé ses champignons, là.
Tu sniffes des champignons, toi?
Ben lui, c'est ça qu'il a fait, non? Il s'est injecté, il m'a parlé avec les champignons, c'est quand même...
non, mais ça, j'ai l'impression qu'il ride le high, mais là, j'ai l'impression que ce qu'on voit la semaine prochaine, je pense qu'il va commencer son crash tranquillement.
Ouais, il va probablement dropper, puis pas juste un peu, là.
Donc, je suis curieux de voir ça, j'espère qu'il va s'en sortir. Mais c'est ça, mais tu sais, un épisode de Time Loop sans quelqu'un qui se rend compte que c'est un Time Loop, c'est un peu poche, on s'entend. Donc, il fallait, tu sais, dans un épisode, dans un truc de Time Loop, il faut toujours quelqu'un qui s'en rende compte, parce que sinon, ça finit juste plus. Ça prend des explosions, ce qu'on a eu à plusieurs reprises. Honnêtement, je sais pas, j'ai de la misère d'en parler un peu cette semaine, parce que c'était comme un... Je sais pas. J'ai l'impression d'avoir déjà vu, tu sais, à cause d'effet d'autres épisodes avec d'autres trucs de temps de même. Il y a des trucs intéressants, je pense que c'est Captain Lorca qu'on a vu mourir et remourir.
Remourir.
La façon qui meurt, c'est drôle.
Le montage de mort, tu devrais pas rire, mais en même temps, c'est comme...
Ouais, mais le montage est quand même, il fait quand même rire.
Ouais, il fait penser un peu à du. Tout le monde, c'est pas mal là pour sortir des noms. Celui qui fait réalisateur. Qui fait. Hey, tabarnouche! Le film de zombies avec. Hey, tabarnouche. Hey, pardonnez-moi, ça va pas bien aujourd'hui. Simon Pegg, c'était...
Ah, Shaun of the Dead.
Ouais, c'est ça, mais tu sais, le réalisateur là, de Shaun of the Dead, c'est Edgar Wright. Justement, cette scène-là avait une saveur un petit peu Edgar Wright dans le sens qu'il justement utilisait les... Quand il faisait des transitions, puis qui faisait des petites cotes, mais tu sais, vraiment très, très, très pointu avec des interludes accélérés, ralentis, tu sais, qui racontent l'histoire au travers de... Je pense que justement, je pense qu'il y a probablement le réalisateur de cet épisode-là a probablement pris des notes de Edgar Wright, j'ai l'impression. Du moins, juste pour cette séquence-là, là, la séquence qu'on voit l'Orca mourir souvent. Sinon, mais je sais, qu'est-ce que vous pensez de mode en tant que tel? Parce que là, plusieurs se disent, mais là, c'est pas le même mode qu'on a vu au cours de la série originale. On y a jamais tué personne, puis.
Mais techniquement, il y a tué personne.
C'est ça.
Ouais, techniquement.
Dans la dernière version de la loupe, il a tué personne.
Ouais.
Ben moi, enfin, je commence à aimer Mode, comme j'ai toujours dit, je le détestais depuis le début, là.
Mm-hmm.
Mais là, je l'aime parce qu'il commence à la fin, on le voyait qu'il était le Mode qu'on connaît, là, naïf. Puis,
ouais, mais on voit, il s'en va vers celui qu'on a connu dans la série originale. Il se rend compte que peut-être il y a des conséquences à ses actes.
Ouais, c'est ça.
Qu'il a manipulé tout le monde avec son salaud. Mais là, c'est lui qui s'est fait avoir.
Ouais. Ça j'avoue, c'est quand même. Parce qu'il a essayé de swindler,
d'attirer la critique de tout le monde. Ma celle-là, vous m'en avez séparé à cause de votre maudite guerre. Et finalement, c'est même pas vrai, c'est lui qui se sauvait. T'sais.
Ah, j'avoue, je me suis. Je pense qu'on s'est tous fait avoir par ça lors du premier épisode qu'on a vu Mode. Puis là, c'est ça, là, le deuxième, là, qu'on fait comme, OK, non, finalement, il s'est juste sauvé avec la dot. D'ailleurs, ça m'étonne encore qu'il y ait un système de dot au 23e siècle.
Ça dépend toujours de la planète.
Ouais, j'avoue. Il y a peut-être des planètes où les humains ont ramené des traditions un petit peu plus ancestrales.
C'est ça, malgré tout, il y a des planètes de la Fédération qui fonctionnent encore avec un certain système monétaire.
Ouais.
Fait que, tu sais, des fois, c'est probablement. Puis surtout s'il y a un système qu'il y a de la piraterie là-dedans, ou qu'il y a une certaine monnaie aussi.
Oh, oui, non, c'est ça, mais tu sais.
Ou des planètes non alignées avec la Fédération, peut-être.
Oui, non, mais c'est ça, justement, un peu comme on peut avoir dans le livre de David Mack. justement, ce livre-là raconte justement que c'est une planète qui était comme qui voulait s'éloigner de la Fédération, mais ça avait une petite saveur de Brexit un peu, j'ai l'impression. Je sais pas si c'était voulu ou pas, là. Mais non, on reviendra là-dessus plus tard, mais c'est ça, il y a une couple de choses que les gens, je pense, n'ont pas réalisé, c'est que pour ce qui est nous autres, la deuxième loupe, je pense pas que ce soit la deuxième loupe pour Stamets et pour Mode. Parce que...
Ça faisait déjà plusieurs fois qu'il n'avait eu.
C'est ça. Ça fait que dans le fond, il n'y avait pas vraiment de conséquences jusqu'à la fin complètement. Puis sûrement que Mode, il disait ça. C'est comme peut-être une façon de justifier. Parce que je ne sais pas si Mode est vraiment un cold-blooded killer comme on pourrait penser. Là.
C'est ça, mais tu sais, en même temps... Si tu dis à quelqu'un, tu peux si tu dis à quelqu'un qu'il peut tuer quelqu'un d'autre sans aucune conséquence, puis que si tu pèses sur le bouton, puis ça va revenir comme c'était avant, je pense qu'il y a bien du monde qui se gâterait, tu sais.
Qui se dirait parce que ça n'a pas de conséquence, même si je le tue, il va revenir dans 2 minutes plus tard.
C'est ça.
Que les gens vont se donner bonne conscience de cette façon-là.
Fait que j'ai l'impression, je pense que c'est une belle manière de rationaliser le mode qu'on a vu versus le mode qu'on a eu. L'absence de conséquences dans un time loop est quand même quelque chose de...
Quand
on fait juste penser à l'épisode de Stargate, là, avec le time loop, avec Teal'c, puis... Richard Dean Anderson. O'Neill, c'est ça. Manif, parce que c'est ça. Là. Ça, je pense que c'est un des meilleurs. Personnellement, là, je mets cet épisode-là en haut de Cause and Effect en tant que meilleur time loop, là, parce que tu vois vraiment O'Neill virer fou. Juste pour illustrer un peu plus le point, tu sais, il vient qu'à embrasser Carter, il fait du golf au travers de la Stargate. Fait que c'est juste pour montrer, tu sais, l'absence de conséquences va mener à des actions qui sont pas nécessairement dans la personnalité de quelqu'un. Je pense qu'on peut juste finaliser ça avec, on peut terminer ce point-là là-dessus. Y a-t-il d'autres points qui vous ont le party, le Gormagander,
Mais justement le party, ouais. Burnham, tu sais, on voit vraiment l'évolution de l'arc de Burnham aussi tranquillement, ouais, vers un petit peu comme plus la rédemption, tu sais, est plus épanouie, elle sort de sa coquille, puis c'est quelque chose qui va continuer, là. Mais disons qu'avec un épisode comme hier, où est-ce que elle a même embrassé Tyler. C'est pas mal. En tout cas, vraiment sorti de sa coquille. Même si c'est techniquement, comme on l'a dit, là, ça compte pas parce qu'il y a eu un reset après. Là.
Oui, mais je pense que dans le cas de Burnham, elle l'a fait en toute conscience. C'est pas parce qu'elle pensait qu'elle allait pas avoir de conséquences. Avec son éducation vulcaine, elle va toujours faire rappeler, elle va avoir le souvenir de. Puis je pense qu'elle avait un goût de se laisser aller.
Non, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, je suis pas étonné du fait qu'elle ait jamais eu d'amour dans sa vie, parce que il y avait juste pas de la place pour ça. Là. C'est vrai que les Vulcains, je suis pas sûr. Les Vulcains sans Ponfar, je suis pas sûr que ça couplerait cette affaire-là.
Ouais, c'est pas logique.
Ouais, mais en même temps, je suis pour le.
Il ferait comme la baleine dans la Shuttle Bay. La Space Whale.
Ah, ben oui, c'est vrai, il a oublié. ou bien comme les pandas, là, en captivité. C'est comme. Ils vont juste manger du bambou, puis. C'est ça. On va oublier de se reproduire. mais sinon, au niveau des effets spéciaux, moi, j'ai bien aimé. Le Gormagander et le Shuttle Bay étaient très bien rendus. J'ai bien aimé la space suit andorienne de Mod. Donc, on a pu voir.
Oui, oui.
Est-ce qu'un jour, on va voir les Andoriens dans Star Trek à nouveau? Je l'espère. Je pense que c'est une des. À part pour Star Trek Enterprise, puis comme une ou deux ou trois fois, je pense, dans la série originale, on a vu des Andoriens. Outre cela, c'est comme.
Dans Star Trek 4, ben, c'est comme juste des petits des backgrounds, là, pas des rôles principaux.
C'est ça, puis on a vu comme Lal dans une forme andorienne aussi au début. Mais tu sais, c'est un peu. Tu sais, je trouve que c'est dommage parce que c'est des membres fondateurs de la Fédération. Eux autres, puis les Talarites, c'est comme. C'est eux autres qu'on voit le moins, tu sais, parmi ces races fondatrices-là. Là, c'est.
On les a mentionnés quelques fois dans Discovery jusqu'à date, eux puis les Tellarites.
Ouais.
Mais on les a pas vus encore.
C'est ça. Je pense qu'ils nous teasent. J'espère que ça va. J'espère qu'on va voir Jeffrey Combs dans Star Trek à nouveau.
Oh, ça serait tellement bon.
Jeffrey Combs dans tous les rôles. Est-ce qu'on se rappellera justement que Jeffrey Combs a interprété. Non seulement Shran dans Star Trek Enterprise, mais dans DS9, il a joué Weyoun et Brunt. Et dans, l'avant-dernier épisode de DS9, il a joué les deux dans le même épisode. Donc, c'est quand même quelque chose. Faut se le dire. Outre cela, c'est ça, c'est drôle. J'ai aimé les personnages, j'ai aimé ça, mais. J'ai pas grand chose à dire sur cet épisode, autre que c'était bon, c'était le fun, ça a bien passé. On dirait, tu sais, c'est pas comme la semaine dernière où ils ont essayé de je sais pas si c'était volontaire ou pas, là, l'affaire du pas holodeck, là, Mais c'est clair qu'il y a quelqu'un dans la salle de production qui s'est dit, ben là, on va mettre des fans en furie, là. Mais j'ai l'impression que cette semaine, il y avait presque pas de point de contention par rapport au canon ou quoi que ce soit.
Puis moi, j'ai pas mis le son du téléporteur.
Ben, on avait vu le téléporteur quand
il y a eu leur cas. C'était juste... Quand il est parti le son, puis ça a fait le son de l'original, j'ai trouvé ça drôle. Yeah, c'est un petit point, là, mais...
Ouais. Mais qu'est-ce que vous pensez
des petits détails comme ça que j'ai commencé à aimer.
Ouais. De la résolution de l'épisode, justement, d'avoir appelé son beau-père à la place de la police ou des autorités locales.
Ben, je trouve que la conséquence n'était pas assez... C'est sûr que si tu regardes ça objectivement, même, là, c'est comme il n'y a rien eu, dans le fond.
Ouais.
Il se fait presque donner un privilège, là, comme ouais, ça. Ben ça. Oui.
Mais non, bon. Mais ça, mais, tu sais, nous autres,
on regarde
ça...
Comme... Leur cas.
Ouais. Mais en même temps, c'est ça. Disons qu'il va être sous bonne surveillance. On va juste dire ça de même. Mm-hmm. Je pense que c'est surtout pour ça qu'il l'a envoyé là. Puis pour ceux qui... Tu sais, c'est ça, il y en a qui disent « Ouais, mais comment il a pu être là en aussi peu de temps? » Mais peut-être que... j'ai l'impression qu'ils ont reloupé le système de communication il y a genre 2-3 loops avant. Fait que si le loop était local, ben il... Le fait d'avoir envoyé ça, genre, il y a 2-3 loops, ben, c'est comme plusieurs heures au bout de la ligne. Parce que, c'est ça, il n'y a rien qui empêche. C'est ça, c'est ça qui arrive quand tu as un épisode comme ça, parce que c'est pas possible de tout voir ou de tout montrer. C'est juste ça. À savoir, moi, le seul point que j'ai un petit peu de misère avec, c'est, je sais pas si Burnham, quand Burnham a décidé... d'avaler la boule de matière noire. Je sais pas si elle avait communiqué ce plan-là de faire en sorte de lui faire réaliser qu'elle était plus valable que les autres. Mais parce que c'est ça, je sais pas. Mais bon.
Mm-hmm.
C'est juste ça qui me twiste un peu. Fait que j'ai pas l'impression. Tu sais, ça m'a pas donné l'impression qu'elle a partagé cette idée-là avec les autres. Mais pourtant, ils sont comme Alex, ce plan-là, pareil, en parallèle des autres plans qu'ils ont fait. C'est juste le seul petit point de contention que j'apprécie. Mais tu sais, en même temps, quand c'est un épisode de Time Loop, des fois, c'est facile de s'y perdre.
Moi, je me demande juste par rapport à Maud, comment il a été capable d'acquérir la Space Whale. C'est quoi le nom?
Gormagander.
Oui, Gormagander. comment il a eu son Mars d'Andorien? Comment il est sorti vraiment de la prison des Klingons? C'est sûr qu'il y a des choses qu'on n'a pas tout expliqué. J'aurais voulu avoir un petit peu plus de background sur comment il s'est rendu là. Mais peut-être que dans un futur épisode, il va avoir un peu plus de, de détails, de contexte. Là.
Ou bien de nos amis, soit David Mack ou Peyton Ward. Souvent c'est leur job de fermer ces parenthèses-là, là, de répondre à ces questions-là, parce que c'est dans ces... c'est souvent dans ces régions-là que j'ai l'impression que les auteurs se donnent le plus de plaisir. C'est pour... dans les entre-deux, là, dans les cracks. au niveau du scénario. Donc, je pense que ça fait... Parce que, par exemple, ça fait déjà pas mal le tour. Comme je dis, pas grand point de contention. J'ai bien aimé. Ça a bien passé. C'est un bel épisode. Bien réalisé. Bien produit. On a eu du Wyclef Jean et maintenant canon dans Star Trek. Ainsi que les Bee Gees. Donc, c'est sûr qu'en même temps, c'est sûr qu'il devait avoir la musique disco dans un party sur le Discovery. Surtout après le T-shirt qu'on a eu.
Les gilets disco.
C'est ça. Surtout avec les gilets disco qu'on a revus cette semaine, je crois. sur oui. ceux qui faisaient du oui. jogging dans le couloir.
Oui. Donc, d'ailleurs, j'ai craqué et j'ai acheté les souliers. J'ai commandé les souliers. Je les ai reçus déjà. Ils sont super confortables. Ils ont vraiment l'air futuristiques. Il y a juste le Nike qu'il faut que j'enlève avec le petit swoosh. Il faut que j'enlève
ben oui.
des deux côtés. Puis ça va être screen accurate.
Ben c'est ça, c'est comme... moi, j'attends le costume de pyjama avec la brosse à dents. La brosse à dents, tu peux te l'acheter aussi, d'ailleurs. J'ai vu un article sur Trek Movies qui en avait fait un review. Je sais pas si c'est sur Trek Movies, sur Trek... je pense que c'est Trek Movie, j'avais vu un... Ouais, c'est ça. Review and giveaway. La Starfleet Sonic's toothbrush is worth your hard-earned credits. Donc, juste avec le titre, on peut se douter que c'est une bonne review. Donc, si ça vous intéresse, allez voir sur le site de Trek Movie. Donc, il y a une critique de brosse à dents. Dernière, c'est dans les catégories choses que je m'attends pas de voir sur un site de Star Trek, ça en fait partie. Donc, toujours en vente à 149$ sur Amazon américain. Brossez-vous les dents comme le docteur de Doctor Who avec une brosse à dents Sonic?
Oh, 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 oh.
Ok, celle-là, c'était... J'ai...
Elle est forte, celle-là.
On l'a pas ri.
Non, j'ai
excuse-nous, JP.
Non, je vais essayer de pas trop rire. Est-ce que vous avez vu le preview pour l'épisode de la semaine prochaine?
Non, j'ai dit, ils écoutent jamais.
Pour vrai, t'aimes pas ça être spoilé?
Exactement.
On va juste dire que... on a des points, j'ai l'impression qu'il y a des points qui vont se résoudre là. Donc justement, je pense que Stamets, on va commencer à voir les conséquences. L'amiral Cornwell, on va voir les conséquences. On a un officier, un certain officier qui est en détresse, et on voit un nouveau vaisseau de Starfleet, le USS Gagarin. Très très, je pense que c'est Gagarin, mais tu sais, ça passe tellement vite sur l'écran, mm-hmm. que c'est dur à voir. Donc là, encore, il y a des gens qui vont dire que les nacelles ne sont pas les bonnes pour cette époque-là. Et bon, et tout le tralala. Je sais ce que j'en pense. À un moment donné, il y en a très, c'est des nacelles. Ils sont carrées, rectangulaires ou rondes. Ils font leur job. c'est sûr. Honnêtement, tu sais, juste revenir à ça. Oui, j'aimerais ça que ça ait un look un petit peu plus. C'est original. Je vous mentirais pas, là. J'aimerais ça avoir des nacelles rondes. J'aimerais ça avoir un petit peu plus de couleurs. Ce qui me gosse le plus dans Star Trek Discovery, c'est les portes. Pourquoi les portes font pas swish?
Mm-hmm.
Tu sais, ça fait des. Ça fait porte de science-fiction, de film de science-fiction générique un peu. Mais c'est des. Je dirais pas que c'est des détails, mais c'est secondaire par rapport à l'histoire. Par rapport juste au fait qu'on a du Star Trek, puis au fait que j'ai bon espoir que tout ça s'en vienne au cours des saisons prochaines. Donc, moi, je continue à espérer d'avoir des portes de la série originale dans Discovery. C'est tout ce que je demande. Je veux mon switch.
C'est tout ce que tu demandes.
À quoi? C'est vrai pareil. C'est...
Oh ouais. Ouais.
Bon, j'ai jamais besoin de rire. Excusez-moi. Fallait que je fasse sortir le méchant. Donc, sur ça, ben moi, ça déjà passé. Ça fait déjà une heure qu'on parle. Je pense qu'il est le temps qu'on se quitte et qu'on se laisse sur... Qu'est-ce qu'on pourrait... Ah, ben oui. Attends, on va se mettre...
Je quitte... je vais mettre... juste pour dire que je vais mettre dans les prochaines heures le fonctionnement du concours pour gagner la housse
oui,
de
une
Scotty.
Une housse de coussin. Et non pas un coussin.
Une
housse
de Scotty.
C'est ça. C'est parce que moi, j'avais vu l'image. J'ai pas pensé, bon, c'est un coussin, mais non. C'est une housse de coussin, attention. Donc, pour ceux que ça intéresse, donc, Marc va tout mettre ça en ligne au cours des heures qui s'en viennent. Et même nos amis français peuvent participer. On est en mesure de vous envoyer ça. donc, si vous désirez participer et êtes en France, n'hésitez pas.
La Belgique aussi.
Non.
Moi, j'accepte la Belgique.
Toute la francophonie et au-delà sont bienvenus à participer à notre concours. Donc, un gros merci à Hélène. À sa fille, qui a fait cette housse et qui vont être au Geekfest de Montréal ce week-end. Vous pourrez les encourager à leur kiosque. Donc, sur ce, on va y aller sur une chanson très inspirante, une de mes préférées, Don't Stop Believin', mais en klingon. Quelque chose comme ça, là.
Bon spectacle.
Bonne écoute. Donc, on y va avec Fierce Song, Bomeku, de Klingon Pop Warrior. Donc, merci Yann, merci Marc, merci Dom.
Bye.
Et on se reparle. Bonne semaine. Et on se reparle la semaine prochaine.
Kortim dag judge me nishik Ram tip look we mir tij vogleng a shuve Veng a dag nech yun Veng wa dit dag bog et kre Ram tip look we tij enoch tu nech kune Spong for dark less bong way. He so hick he wit has cooked jay. Wap you like to shashu wit of ta. It's ta, it's ta, it's ta. It's time. you.